Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Loz Actuali, le numéro 3 de la saison 3. Aujourd'hui, autour de la table, l'équipe type, l'équipe de chroniqueurs habituels. Bonjour Léa.
Bonjour.
Bonjour Bastien.
Bonjour.
Bonjour Eric.
Bonjour les gens.
Et bonjour Pauline Gendry, directrice des archives départementales.
Bonjour.
Notre invitée aujourd'hui. On va parler évidemment de plein de choses qui s'annoncent dans les jours qui viennent. C'est pour ça que cette émission est diffusée en première diffusion un jeudi, alors que d'habitude c'est la rediffusion de Loz Actuali. Mais là on fait en première diffusion puisqu'il se passera demain, vendredi, des choses très particulières. On en parlera rapidement, mais surtout, on en parlera même un petit peu en détail quand même, parce que maintenant on le sait, les choses sont définies. Le lancement des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce sera l'occasion évidemment d'en parler. Puis on parlera aussi des animations que proposent les archives à l'occasion des vacances de Toussaint. Donc ça sera dans la deuxième partie. Mais d'abord, on va, comme d'habitude, faire connaissance avec notre invité. Il y aura bien sûr des chroniques. Eric, on parlera
de la Beat Génération.
Waouh. Ça promet. Léa.
Les théories du complot, je vais vous prouver que tout est lié.
D'accord. Le hashtag du moment.
Le hashtag du moment, oui, ça sera hashtag pistolet, hashtag professeur.
Et dans la revue de presse, il y aura des recherches et des études ultra importantes de cette année 2018 pour Eric.
C'est ça, on découvre encore des choses.
Les fusillades de New York pour Léa.
Un grand classique.
La grande traversée des migrants du Honduras vers les États-Unis.
C'est ça.
Pour Bastien et pour moi, il sera question de LGBT-phobie. C'est tout de suite après ça.
Loz Actuali.
Allez, c'est parti pour cette première partie de Loz Actuali, donc avec Pauline Gendry, directrice des archives départementales. Alors la première partie de l'interview, c'est un peu la découverte de notre invité et puis de ce qu'ils font. On va faire connaissance avec Pauline. Alors comment tu t'es retrouvée directrice des archives départementales de la Lozère? Quel a été le parcours jusque-là?
Alors, c'était pas, planifié, mon atterrissage en Lozère. J'étais en poste avant, à Mayotte, depuis 4 ans et demi. Et puis, j'avais envie de rentrer en métropole pour des raisons personnelles et professionnelles. Et puis, il y a eu cette opportunité de poste, sachant que moi, je cherchais un territoire... Voilà, à taille humaine, une collectivité à taille humaine pour me réhabituer à la métropole d'abord. Je ne souhaitais pas revenir vivre dans une grande ville. Donc j'ai choisi un territoire rural. Très bien.
Parfait.
Voilà.
Et comment on travaille dans les archives C'est quelle formation, quel parcours, quel cursus?
Alors, déjà, dans les archives, il y a plusieurs métiers qui existent. Donc, moi, je suis conservatrice du patrimoine. J'ai une formation, à la fois professionnelle sur comment gérer un établissement patrimonial, mais aussi une formation d'historienne. Donc, il y a les deux volets. Donc, j'ai fait l'École nationale des chartes. Et ensuite, après avoir passé le concours de conservateur, j'ai fait l'Institut national du patrimoine, qui forme les conservateurs du patrimoine. Voilà. Mais il y a plein d'autres métiers dans les archives. On peut aussi passer par des masters pro à l'université, par des licences pro, Y a des métiers aussi auxquels on ne pense pas, mais nous, par exemple, on a une photographe professionnelle qui s'occupe de la numérisation aux archives. On a du personnel plus administratif aussi, etc. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans les archives ? Parce que c'est vrai que c'est un métier qui, là, enfin, de prime abord, on pense un peu à la poussière, à ce genre de choses.
Oui, des vieux, il y a de la poussière, vieux... mais pas que.
Mais qu'est-ce qui peut donner envie de...
Alors bon, moi, ça fait très très longtemps que je veux travailler dans le patrimoine. Les archives, c'était un peu plus tardif. J'ai d'abord voulu plutôt aller vers l'archéologie, mais c'est des voies qui sont quand même beaucoup plus bouchées aussi. Et puis j'ai découvert, c'était par mes professeurs en fait en terminale, le monde des archives, et ça m'a plu parce qu'en fait on travaille pas dans la même chronologie, dans le même temps. Alors même si maintenant on a beaucoup de travail administratif et voilà, mais voilà, on travaille sur la très longue durée et on peut commencer, je sais pas, à classer un fonds d'archives et ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport au temps que les autres fonctionnaires, par exemple. Ça, c'est intéressant. Enfin, ça m'intéresse personnellement aussi de travailler pas du tout sur la même notion du temps, en fait. Ouais. Et puis aussi parce que je m'intéresse à la culture, au patrimoine, moi, personnellement, et que c'est un moyen d'allier sa passion, le travail à sa passion, quoi. Voilà.
Et quand on pense archives, on pense souvent à des photos, à des documents, mais là, par exemple, on est à la radio. Est-ce qu'il y a des documents audio aussi qui font partie des archives ? Est-ce qu'il y a des documents audiovisuels ? Est-ce que...
Oui, tout à fait. On collecte aussi maintenant les archives audio et audiovisuelles. Donc, il y a des fonds qui existent, et que ça soit dans les archives publiques, mais aussi les archives privées. Donc, on peut très bien collecter. On collecte d'ailleurs une radio ici qui fait une émission. C'est une radio locale qui fait une émission d'histoire et ils nous donnent tous leurs enregistrements, par exemple. Voilà, de cette émission. Donc, oui, ça fait partie, tout ce qui est audiovisuel, de ce qu'on considère comme des archives pour le patrimoine.
Alors justement, enfin, quand on... Donc là, on parlait un petit peu des types d'archives, mais quelles sont les missions des archives départementales ?
Alors en fait, tous les services d'archives départementales ont les mêmes missions qui sont définies dans le code du patrimoine, puisque la compétence archive est une compétence obligatoire des départements. Donc on a pour mission en fait de collecter, de classer, de conserver et de communiquer au public les archives, d'abord publiques, ça c'est une obligation réglementaire, aussi privées, on peut collecter des archives privées. Et la communication, en fait, c'est soit on met à disposition dans notre salle de lecture les documents pour les gens qui veulent venir les consulter, mais aussi à travers des actions de valorisation, des expositions, des publications, des animations, participer aux commémorations nationales, etc. Voilà. Mais ça part vraiment de la collecte jusqu'à la mise à disposition du public.
Et tout le monde peut y accéder, justement ?
Oui, alors ça, c'est vraiment le point essentiel. C'est que nous, on a l'obligation de donner accès aux citoyens aux documents administratifs, historiques, etc. Soit parce qu'ils ont besoin de prouver leurs droits, ils ont besoin d'avoir accès à des documents juridiques, par exemple à l'état civil, etc., aux documents fonciers, au permis de construire. Mais aussi parce que on doit leur donner accès aussi à leur patrimoine. Donc là, les documents beaucoup plus historiques, etc. Donc l'entrée chez nous est gratuite. On peut s'inscrire gratuitement. On entre librement en salle de lecture après s'être inscrit. Voilà. Les gens pensent souvent que effectivement c'est payant ou c'est réservé aux chercheurs, etc. N'importe qui peut entrer aux archives pour consulter des documents.
Les documents, ils sont directement, une fois qu'ils sont produits, ils sont versés aux archives ou il y a un délai où ça reste, on va dire, sous cloche pendant un certain temps ?
Oui, alors effectivement, les documents restent, si on parle d'une administration par exemple, les documents, ils restent un certain temps dans l'administration parce que déjà, elle en a besoin pour sa gestion courante et puis après, elle peut en avoir besoin en termes juridiques. Il peut y avoir des recours, des contentieux, donc ça reste un certain temps dans les services. Et à terme, c'est l'archiviste qui, en se basant sur des textes qui existent, définit si ce sont des archives qui ont un intérêt historique et qui donc ont vocation à venir aux archives départementales ou pas. Et s'il n'y a pas d'intérêt historique ou juridique avéré, les documents sont détruits. Alors les gens sont souvent étonnés que nous, on détruise des documents. Mais en fait, tout ça est réglementé. Et de fait, si on conservait tout ce qui est produit dans les administrations, on se retrouverait avec une masse qui n'est pas forcément toujours intéressante. D'un point de vue historique, bien entendu.
Et du coup, comment on définit le mot archive ? Est-ce qu'il faut qu'un document, il ait tant d'années, il ait une histoire ? À quel moment, par exemple, on peut dire ce document est une archive ?
Oui, alors ça, c'est intéressant comme question. En fait, la définition, elle existe dans le Code du patrimoine, parce que c'est vrai que les gens pensent toujours que archive égale vieux. Vieux documents poussiéreux, effectivement, qui datent de plusieurs siècles. En fait, un document, à partir du moment où il est produit, signé, c'est un document d'archive.
D'accord.
Au sens juridique du terme. Donc, voilà, moi, les documents que j'ai faits ce matin dans mon bureau, que j'ai signés, ça y est, ils sont documents d'archive. Mais ils n'ont pas le même statut tout à fait que les documents qui sont chez nous, qui sont des documents historiques. Pour l'instant, ils en sont à leur âge, on va dire, courant. Après, il y a l'âge intermédiaire, puis l'âge définitif des archives. Voilà, parce qu'on n'en a pas les mêmes usages. Mais donc, ce n'est pas du tout l'âge, le critère âge qui définit la, on va dire, la
notion d'archive.
La notion d'archive. Et ce n'est pas non plus le support, parce que peu importe que ça soit un document électronique, maintenant, on pense au mail, à tout ce qu'on produit par informatique, que ça soit audio, audiovisuel, iconographique. Peu importe le support, en fait, ça reste un document d'archive. Voilà.
Quel est le plus vieux document que vous avez ?
Alors, c'est un document du XIe siècle qui concerne le monastère de Saint-Enimie. Je n'ai plus la date exacte, mais ouais, c'est XIe siècle. Hein. Ouais.
Donc ça, on est un citoyen lambda, on a envie de toucher le manuscrit, on a le droit.
Oui, on peut le commander. Alors, sauf les documents en fait, qui sont trop détériorés. Où là, on ne les communique plus parce que ça présente un risque au niveau de la manipulation. Dans ce cas-là, ils sont incommunicables en attendant d'être restaurés. Mais sinon, n'importe quel document du Moyen-Âge, on peut le commander en salle de lecture et on va vous le mettre à disposition. Alors après, on va vous faire des recommandations pour la manipulation. Mais c'est tout, oui, vous pouvez y accéder.
Combien y a-t-il de documents dans le...
Alors, le nombre exact, on ne peut pas vraiment le déterminer, mais en revanche, le kilométrage, oui, on le sait. On a à peu près 8 km linéaires d'archives actuellement, sachant qu'on est, on est un petit dépôt d'archives départementales. Hein, les plus gros départements, ils peuvent avoir jusqu'à, je sais pas, 50, 60, 70 km d'archives. De conserver. Voilà. Donc, nous, 8 km, c'est déjà beaucoup, mais ça reste modeste. Voilà.
Et c'est quasiment plein.
Ah oui, le bâtiment est saturé. Donc, on a un projet de construction d'un bâtiment annexe pour accroître la capacité de stockage pour les 20 ou 30 années à venir.
Et pour une archive, il y a besoin d'avoir forcément l'original, parce qu'on en parlait tout à l'heure de la numérisation. Ouais. Est-ce que la numérisation d'un papier, d'un document peut suffire ou est-ce que,
alors,
justement, est-ce que ça ne va pas changer le métier ?
Ça commence à changer en amont, c'est-à-dire qu'une fois que les documents sont chez nous, même si on les numérise, on ne peut pas les détruire. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc nous, l'état civil numérisé qui est en ligne, ça ne veut pas dire pour autant qu'on détruit les registres d'état civil qui sont conservés dans nos magasins. Au contraire, c'est un moyen de sauvegarde, en fait, la numérisation. Ça veut dire que derrière, nous, on ne sort plus les originaux en salle de lecture. On donne juste à consulter la version numérique. Ça permet de préserver matériellement les originaux. En revanche, dans les administrations, comme il y a de plus en plus de dématérialisation des processus, on a tendance maintenant à autoriser, mais tout ça est réglementé, à autoriser la destruction du papier si une administration a mis en place un processus de dématérialisation d'une procédure administrative. Donc, de fait, maintenant, on va dire peut-être dans les 10 années qui viennent, on va avoir de plus en plus de versements d'archives électroniques et non plus papier.
Voilà. Donc, ça oblige aussi à des capacités de stockage, des formes de stockage qui sont différentes de simplement l'étagère, le rayonnage.
Ça change complètement le métier, en fait. Le métier est en train d'évoluer parce que maintenant, c'est plus seulement la conservation du papier, c'est aussi la conservation des documents électroniques. Et l'archivage électronique, ça demande des compétences techniques au niveau informatique. Donc, on est obligé de s'appuyer sur les services informatiques des collectivités, etc. pour mener ce genre de projet. On ne peut plus travailler, nous seuls, à conserver ces documents. C'est vraiment très technique. On n'est pas encore trop avancé. Alors, je ne parle pas forcément de la Lozère, même au niveau de la nationale. Et on est vraiment en retard par rapport à la production électronique qui existe. On n'a pas encore de solution vraiment... bien pérenne et établie, ça commence dans certains départements, pour conserver toutes ces archives électroniques.
Mais comme tu le disais aussi, il y a une partie de l'offre de documents des archives qui est complètement consultable aujourd'hui sur le site internet.
Oui, on a quand même mené depuis un certain nombre d'années des grosses campagnes de numérisation. Quasiment tout est en ligne, on va dire, à part quelques fonds qu'on a numérisés plus récemment qui ne sont pas encore en ligne, mais ça ne devrait pas trop tarder. Donc l'état civil est en ligne, le cadastre napoléonien, les registres matricules, on en parle beaucoup en ce moment avec les commémorations, c'est très consulté aussi. Bon, évidemment, il ne faut pas se le cacher, notre site il est essentiellement consulté pour l'état civil, les généalogistes, voilà, effectivement. Néanmoins, les gens méconnaissent quand même nos autres ressources parce qu'on a numérisé énormément de fonds iconographiques, donc des plaques de verre anciennes, des photos, etc. Et tout est en ligne, quoi. Donc, ça fait une énorme banque d'images, en fait, sur la Lozère, qui est disponible. Alors, on ne peut pas télécharger comme ça et réutiliser, il y a des conditions. Néanmoins, on peut consulter, télécharger en basse définition. On peut faire les captures d'écran si on veut s'en servir pour soi, sans réutilisation pour une publication, par exemple. Mais donc ça a quand même, oui, donné un accès bien plus grand et facile pour le public et les chercheurs aussi, d'ailleurs.
Et puis donc il y a des activités aussi éducatives et des expos aux archives.
Oui, on a un service éducatif, donc. Avec un professeur qui est mis à disposition par l'Éducation nationale, qui travaille quelques heures chez nous par semaine, et qui monte des activités pédagogiques pour les classes, qui viennent ensuite chez nous sur site. Donc on a plusieurs, on a une chasse au trésor par exemple qui existe. Là, on prépare des activités justement pour le centenaire, enfin pour la fin du centenaire. On a déjà des projets pour le futur. Donc voilà, des activités pour les scolaires. Après, on a des activités grand public comme effectivement les expositions. Il y en a une d'accrochée actuellement jusqu'à fin décembre sur les femmes lozériennes. On va dire les figures qui ont marqué l'histoire de la Lozère, parfois méconnues d'ailleurs. Donc c'est l'occasion de mettre en avant des figures féminines méconnues. Des publications, donc là on va sortir une publication justement pour les commémorations.
On en parlera dans la deuxième partie.
Et puis
de l'émission.
Des animations aussi. Voilà.
Et des cours aussi de.
Des cours, ouais, de paléographie. Ça va réellement commencer en novembre parce que le dernier cours a dû être annulé, pour des circonstances exceptionnelles. En novembre, c'est initier les gens ou approfondir leurs connaissances sur. Le déchiffrage des documents anciens. Comment on lit des écritures anciennes pour pouvoir aussi appréhender des documents du Moyen-Âge quand on vient aux archives. Quoi. Voilà.
C'est encore possible de s'inscrire ?
Oui, tout à fait. Oui. On nous envoie un petit mail et puis c'est bon. C'est gratuit.
Il y a deux, trois sujets d'actualité qui pourraient peut-être concerner les archives. Alors, ce serait pour savoir si les gens se renseignent, par exemple. Il y a le retour du loup en Lozère.
Ah.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... les gens viennent rechercher là-dessus par rapport à la bête du Gévaudan.
Ah oui, la bête du Gévaudan, c'est vraiment un sujet de recherche. On a très très souvent des gens qui viennent faire des recherches sur la bête du Gévaudan, que ce soit des chercheurs qui sont engagés dans une vraie étude, mais aussi des gens qui ont juste envie d'essayer de trouver des documents sur la bête du Gévaudan. C'est vraiment pour la chez nous, c'est l'incontournable.
Et donc c'était quoi la bête?
Non, alors je ne m'engagerai pas dans ce débat qui historiquement est très compliqué, même si avec toutes les archives qui existent, on arrive quand même. Il y a des publications très sérieuses qui ont été faites et on arrive quand même à avoir des éléments fiables sur cette histoire, quoi. On ne saura jamais toute la vérité, effectivement, mais voilà.
Et sur un autre sujet un peu plus pareil d'actualité, sur le réchauffement climatique, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites? Est-ce que vous avez gardé des choses là-dessus ou pas du tout?
Alors certainement qu'il y aurait des choses à analyser dans nos archives. Néanmoins, je n'ai pas connaissance d'un chercheur qui actuellement serait en train de mener une étude sur nos archives, sur cette thématique à proprement parler. Mais il y a des grands historiens qui ont fait des histoires du climat et ils se sont documentés aussi dans les archives. En Lozère, je n'ai pas connaissance, mais ça pourra peut-être bientôt arriver, un étudiant qui s'intéresse à cette question et qui vient analyser effectivement, les relevés météorologiques, les récoltes, si elles ont été bonnes d'une année sur l'autre, etc. Bon, voilà.
Très bien, très bien. Ben voilà, on a découvert un petit peu le donc Pauline et les archives départementales. On reviendra sur les sujets d'actualité et ils sont nombreux effectivement avec ces commémorations donc du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, c'est la première chronique de notre émission.
Loz Actuali.
Eric, c'est à toi.
Alors, vous sentez cette odeur de cigarette froide ? Vous entendez ce vieux solo de trompette fatigué ? Vous entendez ces gémissements lubriques ? C'est la Beat Generation qui nous parle, presque 70 ans après avoir révolutionné la culture américaine. Nous sommes dans les années 50 et les États-Unis commencent à se remettre de la Seconde Guerre mondiale. Toute une jeunesse qui n'a pas été au combat se retrouve coincée entre la morale de papa et les peurs de maman. Ou l'inverse. Bon, elle écoute du jazz, celui de Charlie Parker, révolutionnaire et controversé, le bebop. C'était le calme avant la tempête. Débarquant à vive allure à New York, et l'étincelle prend. Toute une jeunesse américaine va faire crier à l'indécence par ses créations provocatrices. Un choc pour l'époque. Homosexualité, drogue, violence, sexe. L'Amérique puritaine s'offusque. La jeunesse, elle, se déchaîne et bientôt les artistes comme Bob Dylan ou Jim Morrison transformeront l'impulsion beat en un courant international. Du mouvement jusqu'au rock psychédélique, les influences de la Beat Generation sont revendiquées fièrement. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Grâce à quelques auteurs incontournables qui innovèrent non seulement par leur sujet de prédilection, mais également en termes de technique littéraire. Est-ce que vous avez entendu parler du roman de Jacques Kerouac, Sur la route ? C'est adapté au cinéma. Alors ce roman est sans aucun doute le plus connu de la Beat Generation. C'est en général par lui que l'on découvre ce mouvement culturel. La légende voudrait qu'il ait été écrit d'une traite par Jacques Kerouac, usant jusqu'à la corde d'une machine à écrire sur un unique rouleau de papier de 36 mètres de long. Ça doit faire de sacrées archives. Hein. Qui dévore ce roman s'en relève avec une répressible envie de voyage et de transgression. La galère, l'obligation d'économiser le moindre dollar pour rouler un peu plus loin, les effets pervers des drogues. Tout est décrit avec un réalisme qui ne prend pas le temps de s'appesantir. Car depuis les figures romantiques, cette horde d'artistes pluridisciplinaires se cache en fait la naissance d'une certaine jeunesse et celle des générations futures jusqu'à aujourd'hui. « Tout m'appartient car je suis pauvre », clame la citation de Jacques Kerouac, et résume l'esprit de la Beat Generation, une soif de liberté et de découverte. Quels que soient les moyens, le voyage fait partie de la liturgie beat, et il convient alors de s'y adonner par tous les moyens nécessaires, à pied, en stop, dans un wagon de train ou au volant de sa propre voiture, comme les clochards célestes que nous voudrions être. Aujourd'hui, malgré son amour pour Pokémon Go, la nouvelle génération n'a jamais autant cultivé le goût pour l'aventure. Deux jeunes Français sur trois privilégient le voyage à tout autre type de dépenses, et ils sont 90% à préférer découvrir de nouvelles destinations. Il n'est pas étonnant non plus que les écrivains de la Beat Generation soient tant rapprochés des musiciens de jazz et surtout de bebop. Et puisqu'ils écrivaient encore sur les machines, sur les vieilles machines à écrire, avec le mouvement du chariot, le bruit des doigts sur les frappes mécaniques des touches. Donc ça rappelait le rythme saccadé des batteurs de jazz, justement le fameux beat, et leurs solos parfois sauvages. C'est ainsi que ces jeunes blancs passionnés de musique noire se sont autoproclamés hipsters, 60 ans avant que le mot n'embarrasse votre pote qui porte des chemises à carreaux et un bonnet en été. Alors, rappelons que le mot hipster a été inventé justement pour désigner ces blancs qui s'encanaillaient dans les clubs de jazz, majoritairement prisés par les noirs. Parmi les plus grands groupes, on peut dire que les Beatles ont été inspirés de ce mouvement. Tiens, rien que dans le nom, ça porte le mouvement en lui. Et on peut penser à certaines de leurs chansons psychées, notamment l'album Sgt Pepper, avec une chanson comme Lucy in the Sky. Ou dans les années 90, un groupe comme Nirvana avec Kurt Cobain. En France, on a eu Gainsbourg qui était un peu dans cette trempe-là aussi. Après, il y a aussi la photographie qui semble inspirée de ce mouvement. Les clichés de cette époque célébraient la furie du voyage et la conquête d'un Ouest américain à découvrir. Ils ont inspiré des films comme La fureur de vivre. Ils cadrent le reflet du soleil sur un pare-brise, les longues perspectives d'une route déserte bordée de poteaux électriques. Alors, le niveau de qualité photographique n'est évidemment pas le même, mais comment ne pas songer à Instagram et à son apologie de l'art de vivre et des voyages. Les clichés de l'époque pris depuis l'intérieur d'une voiture évoquent la fascination des jeunes d'aujourd'hui pour le trip instagrammé, la célébration de la découverte. Alors la Beat Generation a été le laboratoire des contre-cultures qui sont arrivées après. Alors qu'on pense souvent que nos codes culturels remontent à mai 68, la vague de libération sexuelle et au flower power des 60s, ils prennent en fait leurs racines dans le travail de cette poignée d'intellectuels rebelles qui voulaient tout envoyer en l'air.
Merci Eric pour cette beat génération. c'est le moment de la première coupure musicale et Pauline a décidé de faire des commémorations dans ses choix musicaux, c'est ça ?
Bah oui, puisqu'on va parler de commémoration, alors je me suis dit autant rendre hommage à deux chanteurs successivement qui sont morts il n'y a pas très longtemps.
Donc on commence avec Charles Aznavour ?
Oui, allons-y.
Allez, on écoute quoi ?
Je sais pas, celle qui vous fait le plus plaisir. Bah alors, on a parlé de, je sais pas, de Beat Generation, on va mettre La Bohème alors.
Allez, c'est parti.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Loz Actuali.
Mmh. Deuxième partie de notre émission, et maintenant on reste avec Pauline Gendry, directrice des archives départementales, et on va parler un petit peu de ce qui va se passer dans les prochains jours. La presse Midi Libre a annoncé un programme pour la venue de trois ministres demain vendredi 26, donc avec un premier arrêt au Malzieu pour célébrer la mémoire du dernier poilu mort pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, une venue à Mende pour une rencontre avec les élus et un temps de lancement des commémorations au niveau national. Alors, est-ce que les archives sont partie prenante de ce projet ?
Oui. Alors, je ne vais pas trop m'étaler puisque, étant une bonne fonctionnaire bien loyale, je ne vais pas tout révéler. Mais on a effectivement sollicité pour préparer ce lancement national des commémorations. On a déjà du contenu puisqu'on prépare aussi les commémorations pour le 11 novembre. Donc on a déjà préparé du contenu. Et puis parce que ça fait 4 ans qu'on fait des choses pour ce centenaire aussi. Il y a eu déjà une expo, etc. Donc là on prépare une toute petite expo ponctuelle pour ce lancement national. Voilà.
Et donc les autres chantiers justement qui vont être mis en avant à cette occasion et puis par la suite durant cette première quinzaine de novembre qui arrive.
On a deux choses. On a à la fois notre participation au Grand Mémorial. Donc le Grand Mémorial, c'est une base de données, enfin un site en fait internet créé par le ministère de la Culture. Donc il est déjà accessible, utilisable depuis le début du centenaire puisqu'il avait été inauguré par François Hollande en 2014. C'est une base de données qui recense donc tous les soldats morts et ayant combattu pendant la guerre 14-18, donc tous les soldats français. Donc à travers à la fois les fiches, leurs fiches de mort pour la France qui sont conservées au service historique de la Défense, mais aussi à travers les fiches matricules qui sont conservées dans les services d'archives départementales. Donc en fait, c'est une base de données dans laquelle vous pouvez taper le nom de votre ancêtre, votre arrière-grand-père ou votre grand-père qui a combattu pendant la guerre, et vous allez avoir accès directement aux documents qu'il concerne. Alors, s'il est mort pour la France, vous aurez sa fiche mort pour la France. Sinon, vous aurez sa fiche matricule de là où il a été recensé, on va dire. Donc, nous, on vient de se raccrocher en fait à ce projet national. On a rentré une partie des fiches matricules. Donc, pour l'instant, il y a une partie qui n'est pas encore, accessible. On va dire pour les commémorations, on aura un peu plus de 10 000, peut-être même on arrivera à 22 000 fiches à peu près, sachant que pour les classes combattantes de la guerre 14-18, on a un peu plus de 50 000 fiches. Voilà. C'est-à-dire, les classes qui ont combattu, c'est les classes... Quand on parle de classes, je le précise, parce que peut-être les auditeurs ne le savent pas, c'est l'âge des 20 ans du soldat, en fait. L'année des 20 ans du soldat. Donc, les classes combattantes, c'est les classes 1887 à 1921. Voilà. Donc, chez nous, ça représente plus de 50 000 fiches de soldats. Et voilà, pour le 11 novembre, on en aura à peu près 10 000. On en a déjà mis 10 000, là, mais on en aura à peu près 22 000. Voilà. Et donc, les Lozériens pourront retrouver par ce biais, enfin, accéder facilement en tapant juste le nom de leur grand-père, arrière-grand-père, ce qu'on ne peut pas faire actuellement sur notre site. Il faut feuilleter tous les registres page par page. C'est plus compliqué de retrouver. Bon, en utilisant les tables, en faisant une petite gymnastique, on y arrive. Mais forcément, là, ça va faciliter l'accès au grand public.
J'imagine que c'est un chantier énorme, parce que ça veut dire retraiter de très nombreux documents. Si on parle de 50 000 fiches.
Alors, on fait externaliser une partie de la prestation, parce qu'en interne, c'est très compliqué. Hein, c'est des milliers de données à traiter, effectivement. Donc nous, après, on vérifie le travail du prestataire avant de transmettre les données au ministère de la Culture, en fait, qui met en ligne via son prestataire, en fait, toute cette indexation. Oui, donc c'est un énorme chantier qui nous occupe depuis déjà plusieurs semaines et qui va nous occuper encore pendant de nombreuses semaines. Voilà.
Et là, par rapport aux commémorations, vous avez des demandes spécifiques des écoles, des collèges ou...
Alors oui, parce qu'on prépare des actions spécifiques justement pour les scolaires. On va publier un ouvrage Ça s'appelle ce sont les carnets de Marius Balmel. L'ouvrage s'intitule Les chroniques de la Lozère en guerre. Marius Balmel, en fait, était un fonctionnaire, un érudit mandois, qui a été mobilisé pendant la guerre à l'arrière, puisque en fait, il avait une santé trop fragile, donc il n'a jamais été envoyé au front. Et donc, en fait, il est resté pendant 4 ans mobilisé à la sous-intendance militaire de Mende, et il a décrit, en fait, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il a entendu, sachant que c'était quelqu'un qui compilait énormément de données. Donc, il a tenu des carnets personnels au jour le jour de 1900... Alors, il commence à parler de la guerre déjà vers la fin 1913, parce que le contexte est déjà... Voilà. Après, ça commence vraiment en août 14 avec la mobilisation. Et il écrit jusqu'en 1919 au traité de Versailles sur la guerre, sachant qu'il a tenu ses carnets de 1911 jusqu'à 1948. Donc, il a écrit aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu connaissance, nous, de ses carnets dans le legs de ses archives qui a été fait aux archives départementales par sa fille qui, dans son testament, avait inscrit qu'elle léguait justement les archives de son père aux archives départementales. Donc, on édite ses carnets. On les publie, ça va sortir dans quelques jours, là. Et à partir de ces carnets, on a travaillé avec une compagnie, donc la compagnie 1, 2, 3 Soleil, qui va proposer des lectures publiques, en fait, de ces carnets, croisés avec le journal d'Émile Joly, qui était le maire de Mende pendant la guerre et qui a aussi tenu un journal personnel, qui va sortir
lui est publié par la ville de Mende.
Qui est publié par la ville de Mende, qui sort là en même temps que nous. Et puis, il y aura aussi des extraits des notes d'Albert Jurquet, qui était un fonctionnaire de la préfecture à Mende, et qui, pareil, tenait des notes personnelles pendant la guerre. Et en fait, ils étaient de sensibilité, ces trois personnages étaient de sensibilité politique différente, d'âge différent, donc ils avaient une vision différente aussi de la guerre et des événements, et même dans leur ressenti. Donc on a voulu mettre en regard ces trois textes et les faire lire par une compagnie... théâtral, donc il proposera ses lectures, ça sera gratuit, il y a plusieurs dates.
Le 8 novembre pour les collèges et lycées, c'est ça et...
Voilà, c'est ça, donc il y a deux séances le 8 novembre, matin, après-midi.
Voilà, et puis le 10 novembre, là pour le grand public.
Pour le grand public, à Mende, donc l'après-midi, et par contre il y a des séances en plus à Marvejols, pour que on puisse aussi... faciliter l'accès à tout le public lozérien. Le 12 novembre, le lundi 12 novembre, il y a une séance l'après-midi pour les scolaires et le soir à 20h30 à la salle polyvalente de Marvejols pour le grand public. L'entrée est libre et gratuite.
Voilà, ça fait partie des formes peut-être plus originales en termes de restitution que simplement une exposition.
L'originalité là dans ces lectures, c'est qu'on va confronter vraiment trois textes de personnalités locales qui avaient un regard très différent sur la guerre, enfin du moins l'ont exprimé de manière différente. Et ça, ce sont des témoignages d'un point de vue historique qui sont assez exceptionnels pour la Lozère, et on a assez peu, on n'a pas dans tous les départements trois témoignages de cette importance pour une même période historique aussi importante. Voilà.
Donc voilà, à découvrir. Et puis si vous avez envie de lire, ça se lit bien ou...
Alors ça se lit très bien parce que en fait, comme c'est des textes qu'il écrit au jour le jour, on peut lire 2-3 journées, s'arrêter, reprendre le fil plusieurs jours plus tard. Et puis Marius Balmel a une plume très littéraire, très poétique, donc il a de très belles descriptions de la Lozère, des paysages de la Lozère, de comment la guerre, elle s'insinue partout, comment elle détruit tout, comment elle rentre dans la vie des gens, alors même que ces gens-là, les Lozériens, vivent à l'arrière, ils sont pas sur le front, quoi. Donc, il a de très belles descriptions, ça se lit bien.
Et l'information, parce qu'on est aussi sur un média qui parle d'information, l'information revenait justement de la zone de guerre jusque à l'arrière.
Alors, il ne parle pas beaucoup du front, en fait. Ouais. Il parle beaucoup de la vie en Lozère pendant la guerre. Les récits du front qu'il fait, il en fait quelques-uns. Il l'a eu, par des soldats qui sont revenus, effectivement, qui sont revenus du front. Donc après, ce n'est pas des choses dont il a été témoin directement. Donc, il le raconte avec ses mots à lui et il y a déjà eu un intermédiaire entre deux. Donc ça, il faut toujours, ces récits-là, il faut les prendre aussi avec,
Fait, oui, un peu de distance.
Un peu de distance, voilà. Par contre, ce qu'il voit, lui, et ce dont il est témoin, c'est voilà, comment cette guerre, elle vient jusqu'en Lozère et comment ça transforme les relations sociales, ça transforme la société, ça transforme l'économie, parce que toute l'industrie, tout l'artisanat est tourné vers la production pour la guerre. Donc, oui, non, c'est vraiment ces parties-là qui sont les plus intéressantes.
Et le texte est publié, pardon, le texte est publié brut ou est-ce qu'il y a un accompagnement, enfin, il y a quelques explications qui sont données sur
oui.
le contexte.
Oui, donc on a conservé quasiment l'intégralité du texte. On a coupé quelques passages parce que Marius Balmel était un érudit, donc il fait beaucoup de digressions sur la géologie, la physique, bon, qui sont très rudes d'accès hein, pour du grand public. Donc, on a coupé certains de ces passages. Le reste, on a tout laissé. Il y a des notes de bas de page qui donnent des explications quand il y a des événements voilà, qu'il faut expliquer aussi au public ou sur des termes, etc. Et puis, il y a une présentation historique par deux universitaires qui rappellent tout le contexte, qui expliquent tout le contexte et qui expliquent comment bah, le récit de Marius Balmel il s'intègre dans cette époque, en fait. Voilà, qui analyse un peu son texte. Voilà.
Est-ce que les archives vont mettre en avant justement toutes ces personnes qui sont restées à l'arrière ? Est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas si, je ne pense pas qu'il y ait autant d'archives sur ces personnes-là que sur les soldats qui sont morts, mais oui. Est-ce que vous avez prévu, je pense aux femmes notamment ?
Oui, alors la question des femmes, c'est intéressant. Parce qu'on a eu plusieurs demandes à ce sujet. Malgré tout, on a quand même très peu de documents qui parlent ben, en quantité, hein, on va dire, des femmes pendant la guerre. On a quelques bribes par-ci, par-là. On a des témoignages, si, par exemple, des institutrices dans les villages qui racontent comment ça se passait pendant la guerre. Et puis, à travers aussi des correspondances entre les poilus et puis, ben, par exemple, leurs épouses qui étaient restées à l'arrière. On a quelques correspondances qui montrent ben, comment les femmes vivaient en l'absence de leur mari, quels travaux elles devaient assumer pour faire ben, fonctionner les exploitations agricoles, etc. Donc voilà, on a quelques documents comme ça, mais ça ne représente pas une masse de documents énorme, quoi. C'est vrai. Donc, on peut avoir quelques documents, mais on peut pas comment dire dresser un tableau complet en fait de ce qu'a été le statut et le rôle de la femme, enfin des femmes lozériennes pendant la guerre. Voilà.
Alors, on peut retrouver pour tous les Mandois le programme des manifestations au-delà de la journée de vendredi qui sera une journée un peu particulière et qui a national. Donc à partir du 1er novembre, il y a un certain nombre d'animations qui sont proposées, notamment par David Dabachi de l'ONAC, la ville de Mende, la bibliothèque, enfin voilà, tout au long, le CER, Benjamin Bardi aussi. Donc on retrouve ce programme des manifestations dans le magazine de la ville de Mende, c'est dans le dossier à la page centrale, donc si vous voulez le retrouver. Et puis on le retrouvera bien sûr dans les actus aussi, tout au long dans les actus de 48FM, tout au long de ces dates qui vont être dans les 15 prochains jours. Voilà, donc merci de nous avoir présenté tout ça, Pauline. On peut pas dire deux mots aussi bah, d'une activité que vous proposez pendant les vacances de la Toussaint. Alors là, c'est plutôt ouvert, c'est sur le thème d'Halloween, on change complètement.
C'est plus ludique, là, effectivement.
Plus ludique. Là, c'est le côté moins... poussière qu'évoquait un peu Eric tout à l'heure, non c'est
Un ça peu moins sérieux, effectivement.
Il y a beaucoup d'archives sur Halloween.
Ah oui, non, alors bon, il faut que j'explique un petit peu le concept voilà, qu'on propose pour cette soirée Halloween, donc, bah, qui aura lieu le 31 au soir, évidemment, qui est gratuite aussi. Donc on est déjà quasiment complet, hein. Il reste 3-4 places, donc bon, voilà. Effectivement, on a eu pas mal de succès auprès du jeune public, donc ils vont venir accompagnés de leurs parents. Et on va proposer des visites, hein, des archives, donc adaptées évidemment à l'âge. Il y aura une visite plus sérieuse pour les adultes et une visite un peu plus décalée pour les jeunes. L'originalité, c'est que ces visites se font dans le noir et donc à la lampe frontale ou à la lampe torche. Donc, on a demandé aux gens d'apporter leur moyen d'éclairage. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'originalité. Et puis, bah, au cours de la visite, il y aura des petites animations. Alors, pour les plus jeunes, ça sera vraiment très ludique. Pour les, on va dire, les... on va dire, les jeunes pré-ados, on va dire, ça sera un peu plus axé autour aussi de documents, d'archives, notamment, il y aura des choses sur la bête, hein, du Gévaudan, sur des recettes de sorcières, etc. Donc, ça va être vraiment à partir de documents d'archives dont on va raconter la vraie histoire, mais dont on va aussi raconter une histoire inventée, on va dire décalée, autour de ces documents. Parce qu'évidemment, le but aussi dans ce genre d'animation, c'est d'amener le public à découvrir les archives, à être en contact avec les documents d'archives, mais par un biais un peu plus ludique et plus original que ce qu'on ferait lors d'autres animations qui sont comme des conférences ou les choses comme ça. Voilà, donc je ne révèle pas tout parce qu'il faut garder un peu de suspense, mais voilà, il y aura une ambiance un peu, il y aura une vraie ambiance Halloween.
Bon, donc c'est sur réservation, on l'a entendu. Oui, pour les derniers qui voudraient s'y rendre, il faut très vite appeler les archives départementales.
C'est ça.
Merci Pauline pour toute cette présentation. On en redira deux mots à la fin de l'émission. Et tout de suite, c'est la chronique de Léa.
Loz Actuali.
Alors, vendredi dernier, je prenais un covoiturage pour me rendre dans une ville bien connue du sud de la France. Et si ce mode de transport est aussi économique qu'écologique, il réserve parfois quelques surprises. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur la banquette arrière avec un jeune homme, ma foi, très sympathique, hein, à ceci près que, pendant les 3 heures de route qui me séparaient de ma destination, il n'a cessé de vouloir me démontrer que Ben Laden possédait l'arme nucléaire et que les tours jumelles n'avaient pas pu s'écrouler sans l'aide d'explosifs, puisque les avions, voyez-vous, avaient frappé le haut des bâtiments, écartant de ce fait toute possibilité de fragiliser la structure entière. Alors, je vais être honnête, je n'avais aucune idée de chronique pour cette semaine. Et pour citer mon nouvel ami, comme tout est lié, j'ai décidé de me pencher sur les théories du complot. Alors, il faut savoir tout d'abord qu'il y a énormément de sociologues qui se sont penchés sur cette question et que je me penche moi-même beaucoup sur la sociologie. Ces auteurs ont donc essayé de comprendre pourquoi des gens se détournaient des institutions pour créer leur propre vérité, car si, comme la majorité des hommes et des femmes, vous croyez à la vérité scientifique ou mathématique et la percevez comme inébranlable, ce n'est pas le cas des complotistes. Et si la majorité des gens qui lisent le journal ne remettent pas en cause ces articles, les complotistes, eux, le feront de manière systémique. Il est donc légitime de se poser la question suivante, la classe politique est-elle complotiste ? Et le paroxysme du complotisme est-il synonyme du mélenchonisme aigu ? Bref, je digresse, désolé. Laissons là nos dirigeants, puisque de tous, ils sont ceux auxquels nos fous du complot donnent le moins de crédit. Et c'est pas les seuls. Ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement à ce que j'ai fait sur mon trajet, il ne faut surtout pas tenter de prouver quoi que ce soit à un complotiste, puisqu'il remettra en question la qualité même de preuve à l'argument que vous avez. Alors attention, le complotisme ne touche pas que la sphère politique, mais s'infiltre dans de nombreux combats idéologiques. Ainsi, les traces blanches laissées par les avions seraient en fait des chemtrails, des traînées chimiques visant soit à éradiquer l'humanité à petit feu, soit à larguer massivement des pesticides. Alors là, je pense que je vais beaucoup aider les théoriciens amateurs dans leur débat. L'un ou l'autre, les gars, c'est la même, hein, vraiment. Alors, à côté de ça, on a les fameux extraterrestres, les Jésus ressuscités ou autres reptiliens qui vivent cachés sous la Terre, parmi les humains ou encore dans l'océan, et évidemment... On a les grands classiques du 11 septembre organisés par le gouvernement américain qu'on peut à loisir utiliser pour tout type d'attentats. Ainsi, mon ami covoitureur nous a-t-il annoncé entre deux péages que les attentats de Charlie Hebdo avaient été commandités par François Hollande dans une tentative désespérée de remonter dans les sondages. Il aurait même tenu lui-même à déposer la carte d'identité d'un des assaillants sur le sol après l'avoir trempé dans le sang encore chaud des journalistes. C'est vraiment un sadique ce François Hollande. Malheureusement, la voiture dans laquelle j'étais disposait d'une sécurité enfant et ma porte s'est donc bloquée lorsque j'ai voulu me jeter sur la route. Mais le complot n'est pas forcément aussi négatif que l'on voudrait le croire, car s'il plonge beaucoup de gens dans la confusion, c'est également un marqueur important de liberté d'expression dans une démocratie et la preuve que les gens développent encore un esprit critique. C'est également la lutte de la pensée populaire face à la pensée hégémonique. De plus, pour créer ou adhérer à une théorie, il faut amasser un nombre important de preuves, aller aux archives par exemple, et enrichir ses connaissances avant de tout nier en bloc. Ainsi, les complotistes sont très souvent beaucoup plus cultivés que vous et moi, et mieux informés, au niveau quantitatif, j'entends, que la moyenne. Malheureusement, il y a toujours un revers de la médaille, et si le nombre de complotistes vient à dépasser le nombre de personnes qui appuient leurs propos et leurs pensées sur la science et les institutions, cela peut mener vers une instabilité dangereuse dans une démocratie. Alors, notre société est-elle devenue parano ? Non, simplement, nous vivons dans un monde où l'information circule très vite et où le sensationnel prend une place de plus en plus importante. Une fake news, par exemple, circule en moyenne 6 fois plus vite sur Internet qu'une information sourcée et vérifiable. Rajoutez à cela l'accroissement d'une défiance généralisée à l'encontre des politiques et des journalistes, et vous obtenez un terreau très favorable à l'amplification de ce genre de phénomène. Alors attention à ne pas tout mélanger, il est bon de toujours se poser des questions quand on a une information devant les yeux et de chercher à en savoir le plus. Mais tomber directement dans la théorie du complot, c'est aussi tomber dans la facilité d'un monde certes fascinant, mais extrêmement dangereux où l'on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui.
Merci Léa. C'est sympa le covoiturage.
Yes. Et encore, je vous ai épargné le pire. Parce que Bouteflika était vraiment quelqu'un de sympa et la Chine a le droit d'utiliser des enfants puisqu'elle est riche.
Oui, forcément. Ok, viens maintenant le portrait chinois.
Loz Actuali.
Alors, le portrait chinois de notre invité, je rappelle, Pauline Gendry, directrice des archives départementales. Alors, un animal préféré?
Ah, non, je ne suis pas vraiment l'amie des animaux. Hein.
Bah, ça peut ne pas être, hein, à la limite.
Bon, qu'est-ce que je dirais? C'est pas un animal qui vit sous la mer, j'ai horreur du monde sous-marin. Un oiseau, ça serait, alors je ne sais pas... C'est pas un petit oiseau, une mésange.
Oui, la mésange bleue qui mange les chenilles processionnaires. Hein. Enfin, voilà.
C'est pas trop dur, Mayotte C'était pas trop dur, Mayotte
Non, enfin, y a des. Moi, c'était une super expérience. Après, oui, il y a des côtés plus difficiles, mais bon, non, il faut savoir regarder les bons côtés. Voilà, sinon les mauvais côtés peuvent prendre facilement le dessus. Ouais.
Un loisir.
Ah bah, écoutez la radio.
Ah, bah, j'espère que tu écoutes 48 FM. Un endroit préféré en Lozère?
Un endroit préféré en Lozère? Alors, voilà, c'est compliqué parce que j'en découvre plein en ce moment. Oh là là, non, c'est trop compliqué. Là, il y en a plein de biens. Je ne vais pas dire les Gorges du Tarn parce que c'est vu et revu. Je dirais quelque part sur le Cosméjan, mais bon, après, voilà.
Ça peut être très bien, voilà. C'est une bonne réponse. De toute façon, toutes les réponses sont bonnes. Hein. Donc, un endroit préféré dans le monde?
Florence, en Italie.
Une drogue favorite?
Oh bah, le fromage.
Une citation?
Alors, il y a des citations, je ne les connais pas par cœur, mais il y a des citations d'André Malraux que j'aime beaucoup, qui sont dans son discours de... Alors, si je me rappelle bien, c'est le discours d'inauguration d'une maison de la culture quelque part en France. Et il dit quelque chose comme... Alors, vraiment, c'est... J'explique la citation, hein, parce que là... où il dit que la culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre, quelque chose comme ça. Voilà.
Une qualité, un défaut?
Une qualité que j'aime ou que j'ai?
Plutôt que tu as.
Je suis plutôt comment dire, pas optimiste mais enthousiaste, voilà, je sais pas comment on dit.
Et un défaut?
Un défaut, je suis maniaque. Voilà.
Un plat préféré?
Un plat préféré? C'est pas vraiment un plat, je sais pas ce qu'on peut dire. Chou à la crème.
Très bien,
chou à la crème.
Un verbe ou un mot? Archive, peut-être.
Non. Bon, non, on va changer un peu du travail. Un mot. Nature.
Un héros de fiction ou une héroïne de fiction?
Ouh là là. De fiction. Est-ce que j'ai un héros de fiction qui me...
Ou historique, peut-être.
Ouais, historique plus. Allez, Georges Clemenceau.
Et un rêve?
Un rêve pour moi, pour dans le futur. Je ne fais pas trop de plans sur la... Moi, je suis plutôt... je vis l'aventure au jour le jour. Hein. Je ne fais pas trop des rêves. Mais non, ça serait partir découvrir des pays un peu... J'aimerais bien aller en Ouzbékistan. Voilà, c'est ça, mon truc.
Ben voilà.
Mon rêve.
Un très beau rêve. Et donc maintenant, une deuxième coupure musicale, un deuxième choix, donc une deuxième commémoration.
Une deuxième enfin un hommage, on va dire, parce que commémoration, c'est peut-être un peu tôt, mais oui, c'est Aretha Franklin, effectivement, qui est décédée il y a peu. Alors, je ne sais pas, une chanson, on va prendre... alors, excusez-moi pour mon accent, mon super accent anglais. I feel like a natural woman.
Ok, c'est parti.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was sure and kind. You're the key to my peace of mind.
Allez, troisième partie de cette émission avec la chronique hashtag et le hashtag du moment.
Oui, le hashtag du moment, c'était le hashtag Créteil, hashtag violence, hashtag professeur. Alors, il a réuni au total 125 000 tweets. C'est la vidéo qui a été le plus commentée sur les réseaux sociaux, puisqu'un adolescent de Créteil a été mis en examen dimanche pour violence aggravée après la diffusion sur Internet d'une vidéo sur laquelle on le voit mettre en joue une enseignante. Alors, il aurait agi sous le coup de la rigolade. Alors, c'est très drôle. Un lycéen de Créteil dans le Val-de-Marne qui a été mis en examen dimanche pour violence aggravée après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo sur laquelle on le voit braquer une arme. L'arme s'est avérée factif, mais ces images ont soulevé une vague d'indignation à laquelle Emmanuel Macron a fait écho. Il l'a dit, j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles. Alors, dans un communiqué commun, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner ont fait savoir qu'ils réuniraient cette semaine un comité stratégique afin d'arrêter un plan d'action ambitieux visant à mettre à terme à de tels comportements. Alors, vous voyez que ça allait loin entre Emmanuel Macron et également ses ministres. Alors, pour information, qui est Jean-Michel Blanquer ? C'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur. Alors, l'agression s'est déroulée jeudi dans une classe de première du lycée Édouard Branly de Créteil. Alors, leur réputation a dû prendre un coup à l'est de Paris. Et sur la vidéo, donc, on voit un élève debout tenir en joue sa professeure assise devant un ordinateur avec un pistolet. Il voulait qu'elle lui mette présent car visiblement il était en retard. Alors l'enseignante qui obéit quand l'élève lui demande de tourner la tête et bien évidemment elle a porté plainte le lendemain des faits accompagnée de sa hiérarchie. Aujourd'hui, cette enseignante en PSE, Prévention Santé Environnement, encore sous le choc, va profiter des vacances deux semaines de la Toussaint pour se reposer avec un accompagnement psychologique. Ainsi, au grand jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministère de la Santé, Agnès Buzyn s'est dit troublée par la nonchalance de la professeure. Comme si c'était banal, elle a dit, c'est extrêmement inquiétant sur ce que vivent ces professeurs en zone REP et REP+. Alors, les écoles primaires et collèges d'éducation prioritaire et prioritaire renforcées. Et elle a ajouté, elle est dans un état de sidération ou a-t-elle peur de la réaction des élèves ? Alors, ce qui est quand même inquiétant, c'est que nos dirigeants sont plus choqués de la réaction nonchalante de la professeure que du geste, visiblement, de l'élève avec un pistolet. Mais bon, ça, et si l'enseignante n'a pas prévenu immédiatement sa hiérarchie, c'est tout simplement parce qu'elle considère peut-être que si cela se passe mal dans votre propre classe, cela est peut-être son problème ou sur sa responsabilité. Et puis, il est rare que ça atteigne ce degré d'intensité, néanmoins, avec une arme, insiste le syndicaliste, mais on compte quand même 13,8 incidents pour 1000 élèves par an en France. Et les remontées indiquent que 80% des établissements sont concernés. Alors, l'adolescent de 16 ans, soupçonné d'être celui qui a brandi la réplique d'arme, s'est rendu avec son père au commissariat vendredi, suspecté d'avoir introduit l'arme dans l'établissement. Il a été interpellé le jour même à son domicile, puis remis en liberté sans poursuite. Et l'arme s'avérait être un pistolet à billes. Et des poursuites sont engagées à l'encontre de l'élève qui a filmé et diffusé la vidéo, toujours en cours d'identification. Et Jean-Michel Blanquer a promis dimanche en conférence de presse une fermeté exemplaire pour des actes complètement inacceptables.
On a vu dans le week-end qu'il y a un autre hashtag qui a tourné avec tous les professeurs qui ont été confrontés à des situations de ce type, qui se sont aussi exprimés pour justement mettre en avant ces difficultés et le fait que leur hiérarchie ne les suive pas toujours et que l'État ne
soit pas forcément. Pas de vague, je crois.
Oui, voilà, ça, pas de vague, c'est ça. Je l'ai cherché pendant la chronique et je ne le trouvais pas, merci. Merci.
On devait former les profs au Krav Maga, comme ça, ils seraient mieux préparés à ce genre de choses.
Ouais, en parlant de Krav Maga, il y aura une initiation au Krav Maga dans le forum bien-être qui est proposé dans quelques jours par le PAEJ, la mission locale. Il y aura une émission de 48 FM, donc tu pourras t'initier au Krav Maga si tu veux.
Je pense pas avoir un super niveau, mais allez, je ferai l'effort.
Loz Actualité.
Alors, maintenant, c'est la revue de presse et on commence avec Eric.
Oui, moi, je voudrais juste revenir sur quelques découvertes de cette année 2018, parce que oui, on découvre encore des choses intéressantes en 2018. Ça peut changer vos vies. Hein. Attention, en médecine, il a été prouvé, ou pas, qu'il était possible d'utiliser les montagnes russes pour essayer de faire passer plus rapidement ses calculs rénaux.
Intéressant.
Ouais. En anthropologie, dans les zoos, les chimpanzés imitent les humains presque aussi souvent et presque aussi bien que les humains imitent les chimpanzés.
Elle est donc très mal. Quoi.
C'est ça. En biologie, des experts en œnologie sont capables d'identifier de façon fiable à l'aide de leur odorat la présence d'une seule mouche dans un verre de vin. Par contre, en avalant, on peut très bien l'identifier sans être œnologue de génie. En chimie, on sait mesurer à quel degré la salive humaine est un bon agent de nettoyage pour les surfaces sales. Eh bien, en fait, c'est moins que ce que je pensais. En littérature, enfin bon, si on peut appeler ça de la littérature, la plupart des gens qui utilisent des produits complexes ne lisent pas le manuel d'utilisation. C'est comme cela que Trump utilise Twitter. Alors en nutrition, ça c'est une info pour les amateurs de régime. En effet, il a été calculé qu'un régime cannibale à base de viande humaine était significativement plus bas en calories que la plupart des autres plats de viande traditionnelle.
Bon.
Bientôt le prix Nobel de la paix. Il a été mesuré la fréquence, la motivation et les effets des cris et des injures lors de la conduite en automobile. Que celle ou celui qui n'a jamais insulté personne en voiture me jette la première pierre. Et enfin, en droit du travail, on a calculé l'efficacité d'utiliser des poupées vaudou pour se venger d'un patron abusif. Je crois que tu as essayé, Léa, parce que depuis vendredi, plus de nouvelles de Ludo à la radio.
Non, par contre, je sais qu'il y en a énormément qui ont été vendus sous le nom de Sarkozy. Visage derrière.
Merci, Eric. Maintenant, Léa, les fusillades à New York.
Oui, alors je tiens tout d'abord à m'excuser auprès des complotistes. J'ai trouvé cette information auprès d'un journal tenu par des journalistes. Donc je n'ai pas vérifié mes sources. Hein. Il s'agit d'un article tiré du Figaro et que je croyais, moi-même qui n'étais pas tiré du lit depuis très longtemps, tiré du Gorafi. Alors j'ai dit le verbe tirer trois fois pour vous mettre un peu dans le bain, parce que cet article parle des fusillades quasi quotidiennes de New York qui, pour la première fois depuis 1993, se sont tues le temps d'un week-end. 25 ans de balles qui fusent, plus de 600 personnes prises dans une fusillade, on se croirait revenu au temps des cow-boys, tant cette nouvelle semble incroyable. Et pourtant, dans un pays où l'on se demande si les professeurs ne devraient pas porter des armes, cette nouvelle n'a pas fait grand bruit. Je suis même allée sur le Twitter de la NRA et de Donald Trump. Vous voyez que je me donne du mal pour vous quand même. Hein. Mais rien, pas un mot, pas une récupération, nada. Alors je suis allée voir du côté démocrate, hein, rien chez les Obama, ni dans les grandes associations anti-armes. Seul le maire de New York, Bill de Blasio, a semblé vaguement intéressé par la nouvelle et a félicité les forces de police. Je me suis donc résignée à comprendre que dans un pays où en août dernier on comptait 70 fusillades en un week-end à Chicago et où pour 29 écoliers trouvant la mort dans des tueries en milieu scolaire on compte un total de 13 militaires mourant en service la même année, il n'y avait plus rien à espérer. Alors un dernier petit chiffre, si le nombre de fusillades a baissé de 1,1%, le nombre de meurtres a lui augmenté de 8% dans la ville de New York. Alors soit les tueurs sont revenus aux fondamentaux du couteau dans le dos, soit ils ont passé l'année à s'entraîner au stand de tir. Voilà. Hey, non, mais c'est pas la joie.
Merci, Léa.
C'est pas comme si j'en connaissais qui était parti à New York pour une semaine.
Oui, c'est ça. En plus, tout le monde le sait. Hein.
C'est vrai. C'est même annoncé dans Minilibre.
C'est ça. Bastien, on reste aux États-Unis.
On reste aux États-Unis, oui, puisque actuellement, près de 7000 hommes et femmes et enfants partis de Honduras transitent illégalement par le Mexique pour fuir la violence et la pauvreté dans leur pays. Ils ont poursuivi un dimanche 21 octobre leur marche à travers le Mexique vers les États-Unis, défiant le président américain Donald Trump, qui assurait que tout était prêt pour arrêter l'assaut de ces migrants. Alors, les autorités mexicaines étaient parvenues à bloquer jeudi ce cortège, escorté par des policiers locaux et survolé par un hélicoptère, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve Suchiat, séparant le Mexique du Guatemala. Alors, le journal Le Monde y a interviewé une immigrée qui dit que personne ne va nous arrêter après tout ce que nous avons fait, comme franchir le fleuve. Et cela provenait de Aaron Juarez, 21 ans, qui marche avec difficulté à cause de blessures au pied, aux côtés de son épouse et de son bébé. Une autre personne a été interviewée sur cette revue de presse du Monde, Jessica, 35 ans, qui était vendeuse de cosmétiques et qui a laissé derrière elle ses 4 enfants et qui fait le voyage seule avec son fils de 9 ans. Alors, elle a traversé le fleuve Suchiat sur une embarcation de fortune, ne sachant pas nager. Elle l'a dit, nous n'avons pas d'argent ni une seule goutte d'eau. Alors, comme elle, hein, l'immense majorité des migrants n'ont ni de quoi boire, ni de quoi manger. Ils ont crié « Mexico, Mexico » et applaudi les habitants qui leur ont donné des vivres. Alors, la caravane est finalement arrivée en fin de journée à Tapachula, à la frontière entre les deux pays, après avoir tous marché pendant 7 heures et parcouru au total 38 km sans interruption. Alors, on parlait de Twitter et de Donald Trump. Hein, il a de suite, bien évidemment, réagi. En disant que tout est mis en œuvre pour empêcher l'assaut d'étrangers illégaux de traverser notre frontière sud. Les gens doivent d'abord faire une demande d'asile au Mexique et s'ils ne le font pas, les États-Unis les rejetteront. Alors ça, c'est clair. Et en début d'après-midi, lundi, le président américain a encore une fois de plus affirmé via Twitter qu'il allait réduire l'aide allouée à 3 pays d'Amérique centrale s'il n'empêche pas les migrants d'arriver à la frontière du pays. Il l'a dit, le Guatemala, la Honduras et le Salvador n'ont pas été capables de faire leur travail et d'empêcher les gens de quitter leur pays pour venir illégalement aux États-Unis. Nous allons commencer à couper ou réduire de façon significative l'énorme aide internationale que nous leur accordons. Alors, vous voyez, aucune déclaration ou proposition hein, pour aider sur tous les points de vue ce pays Honduras, aussi bien financièrement que sur la sécurité, que sur des aides humanitaires. Ou autre, rien.
Alors, l'énorme aide, quand on voit l'argent qui est alloué à ces pays-là par les États-Unis, on rigole un peu quand même.
Hein. C'est sûr.
Bien. Au revoir, Eric, qui doit nous laisser pour aller travailler. À bientôt. Pour moi, c'était dans la revue de presse un petit retour sur la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier. Avec 3000 personnes qui se sont rassemblées à Paris suite à une série d'agressions homophobes dans la capitale ces dernières semaines. Voilà, on peut noter que cette manifestation a été organisée à l'appel de plusieurs associations. Et suite à, effectivement à une des dernières agressions, et l'une des dernières avait eu lieu mardi le précédent avec Guillaume Mélany, président d'Urgence Homophobie, une association d'aide aux étrangers LGBT en danger dans leur pays et qui a été frappé à la sortie d'un restaurant. Lors de cette manifestation, Joël Demier, président de SOS Homophobie, a réclamé d'urgence une campagne nationale de sensibilisation contre les LGBT-phobies et que toutes les paroles LGBT-phobes, qu'elles viennent du pape, de la Manif pour tous ou de Marcel Campion, soient systématiquement condamnées par le gouvernement. Il y a une agression physique homophobe tous les 3 jours en France, a-t-il rappelé. Voilà, donc c'était l'occasion de rappeler que c'était quelque chose d'important et qu'il fallait continuer à défendre les droits pour tous.
Voilà. Le commentaire que j'ai le plus vu par rapport à cet article-là, c'était quelles sont les preuves que c'est une attaque homophobe ? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était simplement une rixe dans la rue et donc cet homme s'est fait frapper. Je tiens juste à rappeler que quand la justice dit que c'est un acte homophobe, ils ont des preuves pour qualifier l'acte d'homophobie et que donc il y a pas ce genre de commentaire n'a pas à avoir lieu. Voilà.
On est bien d'accord, effectivement. Donc c'est terminé pour cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Rediffusion le mardi à 12h30, le jeudi à 19h. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur la page Facebook de Los Actuali.
Los Actuali.